ce plaisir quand on n'est pas là. On est plus juvénile.
Dissipé. Non, c'est toi, je pense. Moi, je suis comme d'habitude. C'est toi que quand Denis est là, on dirait que tu te sens obligé de maintenir tout le monde, mais quand c'est Nathan, ça te dérange pas de déraper.
Non, j'ai juste pas le contrôle. Comment tu vas avoir le contrôle sur Nathan?
Elle sait que c'est moi qui vais avoir la lettre au dossier. Anyway.
Exactement, je vais pouvoir le blâmer parce que, tu sais, dans tous les remplacements que je fais, il y a juste quand Nathan est là que je suis problématique. C'est clairement sa faute à lui. Quoique, Max, t'es un peu problématique aussi, t'as traumatisé beaucoup de gens avec ton rire d'outre-tombe. Hey, si vous l'avez manqué, là, d'ailleurs, on doit se le faire entendre là, là.
OK, voici le rire d'outre-tombe de Max.
Oh mon Dieu!
Et puis il rit, il y a un rire de vieux mononcle dégueu qui suit. Et écoutez ça.
C'est le rire de la fin de trailer.
C'est Max.
C'est pareil.
C'est Max dans trailer.
Sérieux, je t'isolerais puis je te mettrais dans un jouet d'Halloween pour faire peur au monde.
Ben, là, c'est pas si pire que ça, là.
Ah, c'est
si
pire que ça.
Clairement. Oui, oui, c'est assez si pire que ça. Ça fait peur, là.
Elle était bonne.
Était excellente.
Mais sur le texto, on dit que tu viens d'assurer ton célibat.
Bon, d'après moi, il y a des gens, c'est ça, qui ont swipé à droite aujourd'hui, qui le regrettent amèrement.
Hey, mais ça a quand même fait réagir pas mal. Le condom, pourra en reparler un petit peu plus tard. Dans la circulation, Maxime?
Capital Est, auteur boulevard Pierre-Bertrand, la voie de droite qui est partiellement entravée, c'est une panne. Puis plus en général, dans la circule, là, très rapidement, là, accès au pont Pierre-Laporte, que ce soit par Duplessis ou Henri IV, en direction sud, là, à partir de la 40, c'est bien bloqué. Capital Est, très difficile entre le boulevard Neuvial et l'approche de Pierre-Bertrand. Capital Ouest, difficile entre Bourassa et Laurentienne. Laurentienne Nord, ça c'est compliqué entre la capitale et un petit peu l'autre côté là, de Louis XIV. Et sur Robert Bourassa, entre ouais, là ça commence à peu près à la hauteur du boulevard Laurier jusqu'à la capitale, direction Nord. Là, fait que très compliqué. Il reste à mentionner la 20 direction Ouest entre route du président Kennedy et un petit peu l'autre côté, le chemin des îles.
Tu avais parlé de Laurentienne, on vient de recevoir un texto direction Nord, c'est dégueulasse. Puis quand ouais, on se retourne, on le voit, là, c'est très, très, très au ralenti. Pourtant, il n'est même pas encore 16 heures. On a comme réussi à reprendre notre sérieux. Je suis quand même assez contente. Comme ça, notre invité ne partira pas en se sauvant puis il n'y aura pas trop de pression pour nous donner un contenu de qualité, quoi qu'il est toujours bon. Avec nous, Samuel Tremblay-Michaud, qui est chroniqueur auto. Tu as un tas de sujets pour nous autres, mais mine de rien, on n'a comme pas le choix de parler de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a une élection qui s'en vient. L'industrie automobile, ça a longtemps été l'industrie forte du côté des États-Unis. Il y a plusieurs gros piliers qui, pendant la crise économique, se sont écroulés. Y a-tu des incidences par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y en a qui prennent position?
Ça va définitivement jouer un rôle, la personne qui va être élue ce soir. C'est dur à dire sur l'impact direct. Ça va surtout être sur de la prévision de conception. Souvent, et bonjour tout le monde, j'ai comme dit bonjour,
Sam.
Je suis comme rentré
salut,
directement
Sam.
Dans le sujet, parce que ça m'intéresse vraiment, mais bonjour à tous. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les constructeurs actuellement ont la facile excuse de dire on ne sait pas sur quel pied danser. On ne sait pas si on fait des voitures hybrides, si on fait des voitures électriques, si on continue encore dans le thermique.
Ça va dépendre des politiques.
On a eu plein de constructeurs qui ont jeté la serviette sur l'électrique, qui ont retardé leur moment de conception. D'autres qui ont décidé de jouer aussi, d'être plus prudents et de se dire on va continuer à faire des voitures hybrides en parallèle du développement des électriques.
Il y a toutes les questions aussi par rapport à qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux importations de véhicules électriques. Il y a un côté très protectionniste.
Ouais. Gestion des frontières,
même avec
ouais.
les deux parties, mais il y en a qui sont plus « Hey, on va les bloquer, les véhicules chinois, on les fera pas rentrer chez nous. »
Il y a ça qui arrive aussi, puis quand on regarde un peu le terrain de jeu actuellement, c'est que si, par exemple, un Donald Trump rentre ce soir, on sait que le protectionnisme qui va arriver autour de ça va pouvoir peut-être avantager quelque peu les entreprises américaines, mais au bout de la ligne aussi, le libre marché puis la compétition juste est également dans les plans. Donc, on pourrait voir arriver peut-être plus massivement encore des véhicules chinois, des choses comme ça sur le marché, qui viendraient chauffer encore plus que jamais le marché. Là. Donc, ça ne serait pas nécessairement une mauvaise chose. De l'autre bord...
Mais pour le consommateur, ça peut être bien parce
ben
qu'on
oui,
n'aura
pour
pas
nous,
le choix d'avoir plus
100%.
De choix, plus d'offres.
Et pourquoi je parle beaucoup d'eux autres? C'est parce qu'on est tellement dépendant en termes d'automobile de ce que les Américains consomment qu'on n'a malheureusement pas le pouvoir. Au Québec, on aime les voitures, on aime les hatchbacks, on aime les voitures de type wagon, mais ça se vend pas aux États-Unis. Fait qu'on n'en a plus ici. T'sais.
Moi, j'en ai parlé parce que je suis porte-parole de Volkswagen Saint-Nicolas puis Laval Vaux aussi. Puis j'en parlais justement dernièrement en leur demandant pourquoi on n'a pas le ID3. trois amis qui sont allés en Europe dernièrement qui sont revenus en me parlant de cette voiture-là, mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Ouais. C'est, on est considéré comme américain, nous aussi.
Le format fait pas pour les États-Unis. C'est ça. On paye souvent pour ça dans plein de conceptions automobiles. Donc là, on voit qu'un peu que la prochaine personne qui va prendre la place de président ou présidente dans ce cas-ci va venir changer les choses. Puis on sait que l'administration Biden actuellement a serré une vis aussi au niveau de l'émission de CO2. Donc, eux, en faisant ça, ce qu'on sait, c'est que ça va pousser les constructeurs à devoir aller chercher des technologies hybrides, aller chercher des technologies électriques. Puis ça ne sera pas le cas si c'est l'administration Trump qui rentre. Donc là, est-ce qu'on va voir un ralentissement de la production? Parce que présentement, aux États-Unis, on voit qu'il y a des véhicules qui sont en arrêt de production parce que la demande n'est plus là. Je vais prendre un exemple, mais le F-150 Lightning, il est en pause présentement de construction pendant 7 semaines.
C'est pas innocent, la durée là-dessus. Hein?
Non, c'est pas innocent. Pas du tout. T'sais, on attend un peu de voir qu'est-ce qui va se passer avec les prochaines élections. La quantité dans l'inventaire actuellement déborde. On sait aussi que les vacances de Noël arrivent, donc ils gagnent 2 semaines en plus au niveau du syndicat. Donc c'est bien, Ford joue ses cartes stratégiquement.
On
veut économiser de l'argent le plus possible, mais on met quand même 7 semaines de temps des gens sur le chômage en attente d'une réouverture d'une usine quand même dans le temps des fêtes. C'est pas des nouvelles qu'on aime nécessairement dire, mais là ce qu'on voit, c'est que si justement, on continue à dire aux Américains, non, mais stressez-vous pas, là. Les moteurs thermiques, ils vont en avoir encore, on va encore en avoir de disponibles pendant longtemps, les affaires de 2035, ça ne tiendra pas, blablabla. C'est sûr et certain qu'on va avoir de la misère à faire de l'acceptabilité sociale, puis on réussira pas à pousser les technologies hybrides ou électriques. Il y en a dans leur voiture qui doivent dire « Yes! » Il y en a d'autres qui vont dire « Moi, ça n'arrivera pas nécessairement. »
Alors que d'un autre côté, un des alliés de Trump actuellement, c'est Elon Musk, qui est bien content que l'électrique ait fini par prendre la place sur le marché.
Oui, exact. Fait que, au bout de la ligne, Elon Musk est content parce que c'est une entreprise américaine. Donc, là, dans le protectionnisme, il va y avoir des avantages aussi là-dedans. Bref, c'est un gros échiquier. Puis clairement, l'automobile attend avec impatience ce qui va se passer.
À quel point la conception des Tesla est encore 100% américaine?
À vrai dire, ça l'est quasiment plus. Il y a plusieurs modèles qui sont construits en Chine actuellement.
Ouais, c'est ça,
Mais ça dépend des marchés où est-ce que tu te trouves. Parce qu'il y a encore beaucoup de Tesla qui sont construits aux États-Unis. On a des méga usines au Texas. On construit beaucoup des Tesla en circulation qui sont faites aux États-Unis. Mais dès que tu vas chercher, par exemple, des modèles de base de certains modèles, dont le modèle Y, c'était un véhicule qui était construit en Chine, qui était importé ici après au Canada sur notre marché, mais qui, aux États-Unis, était vendu « Made in America ». Il n'est pas fait en Chine, celui-là. Okay. Nous, ici, au Canada, on l'a. La version de base seulement. Quand tu vas chercher une version plus équipée, elle vient des États-Unis. Ça devient compliqué de suivre ça un peu, mais tout ça, c'est une question de crédits gouvernementaux, des taxes qu'on met sur les douanes.
Ouais,
puis, tu sais, Tesla, comme tous les autres constructeurs, joue du coude avec ces réglementations-là.
Tu parlais de véhicules électriques, puis il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de ça, puis on l'a vu partout aujourd'hui. Là, on serait en train de battre des records de vente de véhicules électriques. On aurait dépassé des cibles même pour ce qui est de ce qui avait été fixé du côté du Québec. Est-ce que c'est le début de sablier de fin des subventions qui a propulsé ça ou c'est simplement que, hey, là, maintenant, il y a de l'offre, il y a de la variété, puis c'est plus accessible dans tous les sens du terme?
Moi, j'ai clairement envie de faire de la radio vraie, puis de pas de vous dire que c'est parce que les voitures sont mieux qu'étaient, puis que les gens ont enfin de l'inventaire. Ça n'a aucun rapport. Moi, je pense que les gens ont eu effectivement le petit coup de pied dans le derrière pour se dire je veux profiter des subventions et je vais passer à l'action. Il faut savoir aussi qu'il y a des modèles importants qui sont arrivés vers la fin de l'année, dont le Chevrolet Equinox EV, qui est un VUS extrêmement important dans le décor, plus de 500 km d'autonomie, un prix d'acquisition avec les rabais gouvernementaux qui va aussi autour de 40 000 $ Donc, c'est un genre de VUS comme ça qu'on veut avoir sur le marché. Et il est arrivé massivement. GM sait que le Québec achète énormément de voitures électriques. On produit massivement ces VUS-là et les ont shippés au Québec parce qu'on savait aussi que les subventions allaient partir. GM a battu des trimestres de vente avec grâce à ce véhicule-là ici sur le territoire. Donc, c'est un peu un mix de tout ça qui fait en sorte qu'effectivement, on aurait battu des records. Je dis on aurait parce qu'on n'a pas encore les statistiques officielles de statistiques Canada, là, c'est vraiment de l'information du bureau parlementaire de Québécois qui est arrivé en disant qu'on aurait vendu durant le troisième trimestre 34 % des véhicules en circulation seraient hybrides ou électriques. C'est une cible qu'on s'était fixée pour dans 2 ans. Donc, ça veut dire que clairement, il y a eu un souffle qui a été très fort sur le marché du véhicule électrique dans les derniers mois. Clairement, c'est associé à la fin des subventions. Puis je pense que c'est des gens qui étaient surtout très prêts à faire le saut. Des gens qui avaient déjà récolté l'information, qui avaient déjà fait le magasinage.
Qui attendaient juste le bon moment.
Dans le domaine des communications, on est les early adapters, les gens qui aiment les nouvelles technologies. Eux ont déjà sauté sur la technologie. Puis t'es comme juste les gens après les early adapters, mais qui sont aussi prêts à faire, qui aiment les nouveautés, qui aiment essayer des nouvelles choses.
Qui voulaient que ça soit un petit peu plus éprouvé, peut-être.
Et qu'on ait plus d'options de modèles. Puis ça, ben là, quand on prend tout ce mix-là, la fin des subventions, des modèles importants comme le Chevrolet Equinox EV, effectivement, les inventaires qui se sont gonflés, on était prêt à accueillir cette forte demande.
Je pense que ce qui est fort aussi, c'est au niveau de la marque d'avoir conservé le nom d'un modèle que les gens connaissent déjà. L'Equinox existe déjà. On n'est pas arrivé avec un nouveau modèle.
T'as l'impression que c'est une valeur sûre, entre guillemets.
Je pense que, tu sais, t'es un pro du marketing aussi, en plus de l'automobile. Tu sais, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais le fait d'y aller avec un véhicule qui est déjà connu et reconnu ici au Québec, en Amérique du Nord, moi, je pense que c'est une stratégie qui a été forte du côté de GM. Puis le 500 km d'autonomie aussi, là, vient jouer.
C'est piquer l'imaginaire. C'est souvent, on dirait que longtemps, on disait que c'est 400 km minimum que ça prend. Puis, tu sais, au début, quand on avait les Bolt, on avait les Hyundai Kona, on avait les Kia Niro, on était dans les 380 km. Là, maintenant, on a décidé de dire non, là, c'est pas assez 400, c'est ça que ça prend pour dire que ta voiture fonctionne. Puis là, on est rendu dans le 500 km d'autonomie avec l'Equinox EV sur une plateforme qu'on connaît bien, la plateforme Ultium de GM, qui a déjà prouvé sa fiabilité aussi. Fait que c'est vraiment actuellement notre Sidney Crosby. Là. C'est le véhicule qui se vend là, en grosse quantité au Québec.
Puis là, tu sais, on parle beaucoup d'autonomie. Puis au Québec, mine de rien, c'est un enjeu à cause des types de routes qu'on a, à cause des longueurs de distance qu'on doit parcourir, à cause de la météo aussi. Parce que mine de rien, si tu es sur une route enneigée, s'il fait plus froid ou peu importe, c'est différentes variables qui vont faire que, wouhou, ton autonomie justement de 400 est putain 400. Puis ça, c'est obligé. Ça se peut que tu sois obligé d'ajouter un pit stop au parcours que tu devais faire. Hyundai qui serait sur le point de dévoiler une technologie électrique permettant 650 km d'autonomie, c'est déjà un bond quand même assez intéressant. Là.
Vraiment, puis c'est une fameuse plateforme qui s'appelle Initium. C'est comme ça qu'on l'a présenté. Hyundai a présenté ça lors d'un conventum là, de nouveautés, produits et compagnie. C'est un événement qui s'appelle le Clearly Committed. Et on est allé parler justement de cette nouvelle technologie-là qui est basée sur l'hydrogène. Hyundai ne tire vraiment pas la serviette sur l'hydrogène. Je vous en ai déjà parlé à ce micro-ci une couple de fois de l'hydrogène. Des gens qui espèrent que l'hydrogène...
Mais ça a l'air de la solution magique.
Ben ça a l'air de la solution magique, mais ma dernière chronique que je faisais avec vous, je vous disais que le gouvernement du Québec a décidé d'abandonner les projets d'hydrogène parce qu'on a fait des tests et on n'est pas arrivé à des bons résultats. Mais Hyundai arrive en disant, ben nous, on pense vraiment que la pile combustible, la pile qu'on va nourrir grâce à cet hydrogène-là, qui va donner l'énergie au véhicule et qu'on n'aura pas besoin d'emmagasiner une grosse batterie pour faire avancer le véhicule. Eux croient encore fortement à ça, tout comme BMW et tout comme Toyota également. Donc, il y a encore des géants qui croient à ça. Et là, on a présenté la prochaine génération des véhicules d'hydrogène, ce qui semble un peu être à contre-courant, honnêtement. Là, il y a des grands constructeurs qui n'en parlent pas du tout.
Ouais, c'est ça.
Mais là, on a comme un Hyundai qui prend de la place dans le marché, qui s'associe dernièrement avec GM. On a vu des associations avec des grosses marques chez Hyundai. Puis on voit que le constructeur essaie de tirer vraiment sa marque dans le marché de l'hydrogène. Qu'est-ce qui nous manque?
Genre, si ça colle, ils vont être prêts. Là.
À vrai dire, si c'est ils sont partis pour faire le Tesla de l'hydrogène, là, dans le sens que si partis comme ils sont là dans leur développement de technologie, ils arrivent, comme Toyota aussi d'ailleurs, là, Toyota est au même niveau, là, mais s'ils arrivent avec un marché de l'hydrogène qui se développe pour de vrai, ces deux constructeurs-là sont prêts à accueillir cette demande-là. Chose qui pourrait arriver, c'est qu'un Hyundai et un Toyota qui s'associent ensemble pourraient peut-être mettre au monde des stations de ravitaillement. Parce que c'est un peu comme Tesla, ce qui nous manque. Tesla a réussi à nous vendre...
Juste celle sur Amel ici, c'était tranquille. Hein?
Ben oui, vraiment. Et là, Tesla, ce qui a réussi à vendre la voiture électrique, c'est qu'on a mis le réseau Tesla à grandeur. De l'Amérique du Nord au début, on l'a mis en Europe, on l'a mis partout dans le monde, on a développé notre réseau de recharge. Et c'est comme ça qu'on a réussi à dire aux gens, non mais c'est pas grave, vous n'allez pas vous recharger, on vous donne un réseau en plus de disponible. Vous achetez la voiture à plein prix, on vous donne un réseau. Mais maintenant, ça va prendre ça aussi pour l'hydrogène. Et tant aussi longtemps que je ne suis pas capable de vous annoncer ça, c'est bien beau, 650 km, ça a l'air bien fin de voiture électrique à pile combustible. Va falloir qu'on ait un réseau, ça, c'est clair.
Ben, puis ça aussi, il faut que ce soit une décision gouvernementale dans ce cas-là, parce qu'il faut qu'on accorde à Toyota et à Hyundai de venir installer ce réseau-là sur notre territoire si nous, on a jeté la serviette. Moi, j'ai l'impression que l'hydrogène, c'est pour les grosses machines. Avions, etc. Ça, je pense qu'il y a un avenir là-dedans. C'est ça, en plein
transport routier, on parle beaucoup de ça actuellement.
Ben, je pense que oui, mais pour les petites voitures, parce que veux pas l'hydrogène, si je me trompe pas aussi, c'est une. C'est dans la catégorie vert à long terme, mais
ça, dépend comment
ça pollue beaucoup pour le produire.
Ça dépend comment il est produit. Ça prend une énergie qui est verte. Donc, nous, ici, avec l'hydroélectricité, on est capable de faire ce qu'on appelle de l'hydrogène vert. Si on n'a pas du courant qui est propre, bien là, on ne fait pas de l'hydrogène qui est très propre non plus. Et l'autre enjeu qu'on a, c'est que la quantité d'énergie qu'on a besoin de prendre pour produire de l'hydrogène, ça fait en sorte que là, on fait, c'est-tu vraiment écologique au bout de la ligne de dépenser une si grosse dose d'énergie dans la conception d'hydrogène vert? Il y a beaucoup de constructeurs, dont Hyundai, Toyota et compagnie, qui croient par contre à un mix. On parle que l'hydrogène va venir s'ajouter à l'équation, pas remplacer la batterie non plus.
Fait qu'on on change le mode hybride.
Mais à vrai dire, non, parce que c'est un véhicule électrique. C'est un véhicule électrique qui, au lieu d'avoir une grosse, grosse batterie qui garde plein de courant, a une petite batterie qui, elle, se fait alimenter par l'hydrogène. Okay. Donc, on remplit un réservoir d'hydrogène, lui crée de l'énergie, recharge une batterie qui fait fonctionner une voiture électrique. Il n'y a pas de moteur thermique. Donc, ça reste une autre option dans l'électrification des transports. Puis, il y a des constructeurs, pas niaiseux, là, quand même, le Toyota, BMW, Hyundai, c'est quand même des noms que je vous nomme, que vous connaissez.
Puis, tu y crois?
Moi, je crois au mix énergétique. Je pense pas qu'on va réussir à arriver à avoir une solution pour tout le monde, point barre. Ça, c'est clair et net. On voit aussi en Europe le diesel qui est tellement encore si puissant en Europe, mais qu'ici, on n'a plus quasiment à part dans les gros camions.
Pour les voitures de
tout le monde,
en fait,
oui, exact. Ouais. C'est ça. Fait que, tu vois qu'il y a encore une fois un mix énergétique qui est différent déjà aujourd'hui. Donc, clairement, ça prend des options. Et des constructeurs comme ça qui investissent aussi massivement, ça m'ouvre des portes.
Dans tes sujets d'actualité, puis ça me fait penser parce que ce matin, les gars parlaient justement de la transition vers tout ce qui était électrique, puis qu'il y a des stations-services qui, à un moment donné, éventuellement, peut-être, ne serviraient plus à rien, mais il y a quand même des services qui sont offerts là, qui sont essentiels, mais l'argent se fait avec le gaz. Peut-être qu'on devra subventionner, donner un coup de pouce par rapport à ça. L'Alberta qui veut taxer les propriétaires de véhicules électriques.
Oui. C'est fait. Le projet de loi est déposé. On avait présenté ça dans le budget en février 2024.
Ça prend des revenus à un moment donné. Là.
Pour compenser le manque de vente d'essence, la taxe sur l'essence. Ce qu'on a calculé en Alberta, c'est qu'un automobiliste moyen devrait payer environ 200 $ par année de taxes reliées à l'essence. Les taxes sur l'essence sont extrêmement faibles en Alberta versus chez nous. Là. C'est le jour et la nuit.
Ouais.
Et là, ce qu'on voit, c'est que le 200 $ à manquer, on le taxerait sur le frais d'immatriculation des propriétaires de véhicules électriques. C'est projet de loi déposé donc dès janvier 2025. Vous êtes albertain, vous avez une voiture électrique, vous avez 200 $ de plus à payer pour votre immatriculation.
Rendu là, t'es pas mieux d'enlever les taxes sur l'essence puis mettre juste des taxes sur l'immatriculation? Taxer le véhicule plutôt que taxer l'énergie?
C'est déjà le cas. Dans le fond, on va ajouter 200 $ de plus. Fait que les voitures à essence ont toujours leur immatriculation aussi, leurs frais d'immatriculation, mais ils vont aussi avoir leur taxe sur l'essence, tandis que les voitures électriques, on va aller chercher un supplément sur le frais d'immatriculation. Il faut savoir que l'Alberta n'est pas la première province à faire ça. La Saskatchewan l'a fait en premier en 2021. Eux, ils ont mis 150 $ de plus sur l'immatriculation des véhicules électriques dans la province.
Est-ce que ça pourrait être un incitatif pour les concessionnaires? Peut-être de dire, tu sais, en Alberta, venez acheter un véhicule, nous, on va payer votre 200 $ pour la première, deuxième, troisième année ou en location de véhicule. Peut-être, est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir?
Hey, écoute, tout est possible hein, dans le domaine de la communication, tu le sais comme moi, qu'on peut trouver toutes des bonnes stratégies. Maintenant, dans tous les cas, c'est un frais de plus que le gouvernement va se mettre dans ses poches.
Ouais,
que ce soit le concessionnaire qui le paye ou que ce soit.
L'argent va se rendre.
L'argent va se rendre, exactement.
Je pense qu'on a assez donné côté électrique. Toyota, on va terminer avec ça d'ailleurs, Toyota qui va probablement ramener deux modèles sportifs emblématiques. C'est loin pour moi l'époque où Toyota avait des modèles sportifs. C'était lesquels? Hein?
Mais pourtant, encore aujourd'hui, on a quand même des modèles sportifs dans l'alignement chez Toyota. Là. J'en ai trois en tête, là, mais la Toyota GT86, qui est un petit coupé, propulsion, manuel.
Google Images.
C'est une petite voiture qui est construite en partenariat avec Subaru. On a un moteur 2,4 litres. Une petite voiture très agréable à conduire. J'ai eu la chance et le bonheur de m'asseoir dans ce véhicule-là. Puis, honnêtement,
oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'elle existait, elle.
Il y a la Toyota GR Corolla aussi, qui est une version plus extrême de la Corolla. 4 roues motrices, moteur, 3 cylindres, turbo compressé, 310 chevaux.
Tu vois, elle au look, je l'aurais pas rentré voiture sport, mais à écouter les spectres, oui, je comprends.
C'est vraiment une voiture sport. Puis on a la Toyota Supra, qui est une voiture aussi très emblématique, qui reste encore en vie aussi dans l'alignement. On a la GR Supra aussi, qui est faite avec une délicieuse boîte manuelle 6 vitesses.
Et c'est rare le manuel. Hein?
Ah oui, vraiment. Ah. Et un moteur 6 cylindres en ligne de 3 litres, là, qui est fait par BMW. Donc, on a quand même déjà dans l'alignement des voitures qui sont assez intéressantes. On développe beaucoup aussi la marque GR chez Toyota pour Gazoo Racing, qui est lié directement à un modificateur japonais de véhicules Toyota qui s'appelait Gazoo Racing. Donc, on développe encore plus cette gamme-là. Et je ne sais pas si vous aimez un peu les animés. Moi, je n'écoute pas vraiment beaucoup d'animés, mais je sais que c'est très fort. Okay? Puis Toyota, dans les stratégies de communication et de marketing, ont lancé une série qui s'appelle GRIP, G-R-I-P, sur YouTube. C'est Toyota USA qui a lancé ça. On est déjà rendu à la deuxième saison. saison. On suit des jeunes passionnés qui font de la course. Et là, ils ont toutes des voitures en animé.
Voyons
là, ils ont toutes des voitures Toyota. Puis là, on voit tout l'esprit de compétition, la course automobile entre ces jeunes-là, blablabla. Et dans un des plus récents épisodes, on a présenté l'épisode 1 de la saison 2. Et sur un tableau dans l'animé, il y a des écriteaux qui sont écrits, puis il y a des internautes très allumés qui l'ont vu. Ça dure une seconde, le frame, OK? Ça dure vraiment pas longtemps. Et là, on voit sur ce tableau-là des générations de véhicules Toyota qui n'existent pas. Ça veut dire qu'on est comme dans la prochaine génération.
Et de l'intégration de produits à un autre niveau.
Non, non, mais là, écoute, j'en ai écrit un article. Là, c'était vraiment bien pensé. Et là, ce qu'on voit dans le fond, c'est que Toyota serait sur le point de nous parler d'une Toyota Celica qui va peut-être allumer beaucoup de passionnés automobiles aussi. Donc là, on a marqué la Celica MK8. Donc ça, c'est la prochaine génération qu'on ne connaît pas encore. Puis on a aussi la fameuse MR2 chez Toyota, qui était une voiture aussi très sportive, très agréable. Puis là, on a marqué la MR2 MK8. K4, qui serait aussi la prochaine génération, donc qui n'existe pas encore. Et là, ça a enflammé l'Internet. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, Toyota a été très verbal aussi dans les dernières semaines. On aimerait ramener une Celica, on aimerait ramener une MR2. On voit aussi qu'il y a des concepts. Là. Il y a une voiture, la FTSE Concept, qui est disponible, là, qui est d'ailleurs magnifique. Une petite voiture coupée. On l'a peint d'une couleur orange, le concept, avec des magnifiques roues. C'est une voiture qui a vraiment une allure très, très, très sportive, qui est cambrée à terre. Et cette voiture-là viendrait faire l'office de MR2. Donc, à voir et à suivre, mais ça s'aligne bien pour les passionnés de voitures.
Clairement, toi, ça t'allume, là.
Mais moi, ça m'allume beaucoup, puis je sais qu'il y a des gens qui sont fans de la marque aussi. Ça reste que moi, dès qu'on parle d'une voiture sport qui revient, je suis content. Hein. Toujours content.
Parce que MR2 2007, de ce que je peux voir en dernière production, quand même, puis je pense pas qu'on les avait eues nécessairement ici, MR2 Spider, en Amérique.
En Amérique, puis tu sais, la MR2, là, honnêtement, il y a eu des générations, surtout dans le tournoi des années 2000, là, des générations extrêmement pimentées. Là. C'était agréable à conduire.
Sam, ta passion est contagieuse. Ouais. Sam Tremblay-Michaud, chroniqueur auto, vous pouvez le retrouver, entre autres, sur Facebook. Il alimente beaucoup ses médias sociaux. Il prend le temps de répondre aux questions quand vous en avez.
Oui, je prends toujours le temps. Je suis rendu Audrey Pinchot un peu. Par contre, j'envoie beaucoup de messages vocaux. Mais c'est vraiment pratique, honnêtement. Ouais. Des fois,
c'est ta fun.
Non, mais je fais ça vite, par contre. J'essaie de résumer vite ma pensée.
Mais tu m'as écrit, moi, depuis hier. Merci. Tu m'as envoyé aucun message vocaux.
Non, mais tu sais, ça dépend. Mais en même temps, j'avais une question qui était
intéressante. Nathan, il est vieux. Je vais lui écrire un texte.
Oui, c'est ça, exact. Mais je prends la peine d'envoyer des messages.
Merci. Est-ce que tu as aimé l'intervention de Max dans toute ta chronique de 21 minutes?
Le wow!
Ouais.
Mais il était belle, la voiture!
Oui, non, mais Max, j'ai fait faire un tour avec lui cet été de voiture. Puis il avait
c'est vrai,
ça.
C'était une belle voiture.
Ouais, c'était quoi la voiture cet été?
Que j'avais déjà? La Corolla, je pense.
Allez, vite.
Oui, je pense que j'avais la GR Corolla.
T'es plus vite que l'autobus, il capotait sa vie. Sam, merci beaucoup. Vous écoutez Gravel dans le retour sur les ondes de Boulevard 102. Blink a sorti un super bon album. Ils ont sorti une version deluxe, puis ont trouvé le moyen de sortir d'autres tunes là-dessus. C'est d'ailleurs sur cette version de luxe que vous retrouvez All in My Head.